Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyril Michard.
Deuxième invité d'Au bout de l'actu, en prolongement finalement de la visite de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, que vous avez peut-être entendu il y a un instant sur Alpe 1. C'est le directeur interrégional de l'Agence française pour la biodiversité, Étienne Frechefond. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être à nos côtés. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots l'intérêt qui est de cette signature de protocole qui a été signée donc aujourd'hui entre le Parc national des Écrins et donc avec l'Agence française pour la biodiversité? L'idée principale, c'est le message qui est passé, c'est quoi?
Le message qui est passé, c'est de mettre en synergie, en collaboration, des services qui, certes, s'ils travaillent sur des périmètres différents, puisque le Parc des Écrins travaille sur son aire de parc, et le service départemental de l'AFB travaille sur toutes les Hautes-Alpes, l'idée c'est de mettre en commun un certain nombre de compétences qui ne se retrouvent pas dans les établissements, tout cela au profit de la préservation de la biodiversité. Je prends juste un exemple, le Parc des Écrins a des botanistes, des naturalistes extrêmement chevronnés, qui peuvent nous aider sur le reste du département à faire de la reconnaissance, en tout cas à former nos agents pour être plus en capacité de reconnaître les espèces protégées. Donc ça, c'est un vrai apport qu'ils peuvent nous amener. Et nous, inversement, les inspecteurs de l'environnement du service départemental des Hautes-Alpes sont assez pointus sur tout ce qui est procédure judiciaire qu'ils peuvent apporter à leurs collègues du Parc des Écrins. Voilà, c'est un exemple très concret et on peut les multiplier à l'envi.
Ça veut dire mieux connaître cette biodiversité qui nous entoure au quotidien, qu'on croit parfois connaître, mais qui est bien plus vaste que ce qu'on peut avoir comme connaissance au quotidien. C'est ça l'idée, c'est de référencer encore un peu mieux ce qui existe autour de nous.
Alors, il y a l'idée de mieux référencer, de mieux connaître, parce que quand vous connaissez mieux, vous protégez. Oui. Vous savez comment protéger, vous savez les leviers que vous pouvez mobiliser pour protéger cette biodiversité et l'habitat des espèces. C'est ça l'idée. Mais c'est pas que connaître pour connaître. C'est vraiment derrière, c'est pour l'action, pour
le conseil orienteur de projet. C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Une fois qu'on a référencé, qu'on a un grand catalogue, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Qu'est-ce que ça apporte au grand public? Qu'est-ce que ça apporte aussi aux acteurs du territoire? Qu'est-ce que ça leur permet d'avoir?
Alors, on peut de cette manière communiquer sur la richesse du territoire. Et ça, c'est très attractif. Le parc le fait très bien. Ils mettent très bien en valeur les différentes espèces un peu emblématiques qui se trouvent sur leur espace. On peut le faire à l'échelle du département. Donc ça, c'est vrai que ce côté capitalisation pour la communication, la sensibilisation, il est extrêmement important. Mais il sert aussi à accompagner tous les porteurs de projets qui ont un certain nombre de projets, qui peuvent à un moment donné, s'ils ne connaissent pas les enjeux environnementaux ou les enjeux de biodiversité au droit du projet, peuvent rater un certain nombre de choses. Et donc ça, c'est bien le rôle des services de l'État, des établissements publics comme le parc, comme l'AFB, de pouvoir apporter cette expertise-là et de pouvoir aussi orienter le projet. L'idée, c'est pas de bloquer les projets, mais bien de créer et d'avoir des aménagements qui vont être beaucoup plus résilients et résistants, on va dire, aux changements et aux atteintes.
Vous m'avez tendu une perche pour vous poser cette question, parce qu'on pourrait vous traiter d'empêcheur de tourner en rond.
Et non, c'est clairement pas l'esprit.
Et c'est pourtant souvent comme ça que c'est vécu ici. Parce que la biodiversité, pour les habitants des Hautes-Alpes ou des Alpes d'Haute-Provence, pour eux, c'est du quotidien. La campagne, la vie et la nature, le respect de l'environnement, c'est une vie au quotidien. Et souvent, on aurait tendance à dire, oui, mais cette biodiversité qu'on nous impose en plus, c'est autant de contraintes supplémentaires qui nous empêchent éventuellement de faire évoluer l'économie.
Alors, mais l'idée, elle est clairement dans l'autre sens. Oui. Alors, on l'a vu sur la présentation, par exemple, du parc, sur la marque Esprit Parc. C'est justement utiliser, entre guillemets, cette richesse naturelle pour faire du développement, pour avoir une.
Mais où elle trouve sa place, l'économie?
Une forme de label. Clairement, je pense que les acteurs, s'y retrouvent, s'y rentrent dans la démarche, c'est qu'ils s'y retrouvent économiquement. C'est qu'ils mettent en valeur, ils vendent aussi. Ils vendent un peu de l'image, de l'envie. Voilà. Et donc ça, c'est très fort.
Donc après, ça renforce l'idée de cette carte postale, finalement, que peuvent avoir les territoires.
Ouais. Alors sur des territoires très exceptionnels, peut-être que c'est carte postale.
Ouais.
Sur d'autres projets, ça ne va pas être l'image du paysage qui va être importante. C'est la bonne prise en compte des enjeux environnementaux ou de biodiversité qui permettent de faire un projet d'avoir un territoire derrière qui va être beaucoup plus résistant, beaucoup plus résilient au changement. Je vais prendre juste un exemple, c'est ce que je citais tout à l'heure. La destruction de zones humides, un recalibrage de cours d'eau, ça peut avoir, si c'est très mal fait, ça peut avoir un impact catastrophique sur la biodiversité, ça peut avoir un impact à l'aval sur les inondations. Alors que si on le prend dès l'amont, enfin dès le début, sur en regardant bien, c'est quoi le fonctionnement naturel de ce cours d'eau, quels sont les aménagements qu'on peut y faire, on peut être complètement gagnant-gagnant. On préserve cet environnement et on a un aménagement qui va être durable.
Si je vous comprends, vous êtes en train de nous dire l'homme a suffisamment détruit ce qui l'entoure, et notamment cette biodiversité, pour ne pas continuer aujourd'hui et ne pas faire les mêmes erreurs que le passé. Et c'est à ça que sert aussi ce genre de protocole qui a été signé aujourd'hui.
Oui, clairement. C'est-à-dire que on a eu pendant des années des politiques publiques qui, certes, ont produit de l'aménagement, mais en gros qui... Si je reprends l'exemple des fleuves, par exemple, protéger le fleuve des atteintes de l'homme, d'un côté, et protéger l'homme des atteintes du fleuve ou des rivières. En gros, on essayait vraiment d'éviter les interactions. Là, l'idée est vraiment complètement différente. De dire, est-ce qu'on peut avoir, en matière de gestion, par exemple, des inondations, une approche beaucoup plus douce où finalement, oui, les riverains reprennent conscience qu'ils ont un patrimoine naturel à leurs pieds, là, juste au bord d'eux, que c'est une vraie richesse, et auquel on peut donner un certain nombre de degrés de liberté sans qu'ils aillent impacter les constructions, parce qu'on ne les aura pas mises à cet endroit-là. Voilà. C'est vraiment un changement complet de façon de repenser l'aménagement du territoire.
Et quand on pense biodiversité, souvent aussi dans nos territoires, on pense depuis un petit moment à un débat qui ne cesse de revenir sur le devant de l'actualité parce qu'on ne trouve pas de solution pérenne de toutes parts. On pense aussi au loup. Est-ce que ça rentre aussi dans ce schéma, cette biodiversité? Est-ce que le loup rentre dans cette biodiversité?
Alors oui, le loup, c'est un des éléments. C'est peut-être c'est une espèce emblématique. Alors pour le coup, je suis assez mal placé pour en parler puisque c'est
notre... Sans rentrer dans les détails techniques, mais sur l'esprit général, il faut prendre en compte que l'État considère qu'il fait partie de la biodiversité et que ça ne changera pas.
C'est une réalité. Il fait partie de la biodiversité. Après, voilà, il y a un organisme, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui gère en tout cas ce sujet. Pour le coup, il n'est pas du tout dans le giron de l'Agence française pour la biodiversité. Mais c'est une réalité, oui, qui s'impose au territoire.
Dernier mot sur ce protocole qui a été signé. Je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans la mesure où c'est le premier parc de France qui signe un protocole avec votre agence. C'est bien ça?
Oui. Alors après, la collaboration entre les services départementaux des Hautes-Alpes et les agents du parc existait déjà puisque... ils ont des métiers qui sont quand même assez proches. Sur des territoires qui se touchent, mais qui étaient assez proches, donc il y avait déjà de la collaboration. Et si on arrivait aujourd'hui à formaliser et donc passer à l'étape un peu supérieure de cette collaboration, c'est parce qu'il y avait un historique, c'est vraiment parce que les agents se connaissaient et travaillaient ensemble. Et donc oui, c'est vraiment le premier qu'on signe en PACA, c'est le premier qu'on signe à l'échelon national.
Ce qui va devoir engager un petit peu plus aussi? Ou pas plus que ça. Vous nous disiez, on travaillait déjà avant ensemble.
Si. L'idée, c'est vraiment.
C'était assez officieux, on va dire. Aujourd'hui, c'est officiel.
C'est officiel c'était officieux, c'est vrai. Là, c'est officiel. C'est avec la coordination aussi de la préfecture, qui gère tous les services qui interviennent en matière d'environnement, que ce soit des établissements publics ou des services de l'État. Et donc, oui, c'est vraiment une étape supérieure où on renforce la collaboration, effectivement.
Merci d'avoir été notre invité, Étienne Fréchefond. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Agence française pour la biodiversité, directeur interrégional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Corse d'ailleurs, au passage. Merci d'avoir été l'invité d'Au bout de l'actu, dans un instant, 19h sur Alpe 1. La suite, ce sera avec le récap de l'info. À tout de suite.